بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Je vous parfume. بارك الله فيكم. Ça faisait partie des parfums préférés du prophète alayhi salat wa salam. C'est du oud, vous en voulez. Normalement, ça reste jusqu'à demain. Si ça ne reste pas jusqu'à demain, vous me dites, je vais me faire rembourser. Majlis Mubarak. Une assemblée bénie d'Allah Azza wa Jal. Une assemblée qui est recherchée par les malaïka. Lorsqu'on s'assoit pour étudier la parole d'Allah Azza wa Jal, dites-moi quelle assemblée apporte autant au iman que ces mêmes assemblées, comme à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam, de la maison d'Ar al-Arqam ibn al-Arqam radiallahu anhum. Lorsqu'à Makkah, le prophète alayhi salatu wa salam recevait les premières révélations et il se réunissait avec les sahaba pour expliquer qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé à la Ummah. On essaie de perpétuer ce genre de majlis, ce genre d'assemblée, à notre niveau, avec nos faiblesses, avec nos moyens, avec nos manquements. Nous ne sommes pas des mufassirines, nous ne sommes pas des commentateurs du Coran. Nous ne faisons que rapporter ce que les commentateurs ont dit. Nous ne faisons que traduire, essayer de faire passer le message, avec grand espoir que je serai le premier à les mettre en pratique. Ensuite, vous les mettrez en pratique, mais que nous entrerons tous ensemble dans le Jannah, Inch'Allah. Et peut-être c'est par ces versets, il y a peut-être un verset qu'on a écouté à un moment donné qui a provoqué un déclic en nous, qui nous a permis de raffermir notre foi, qui nous a permis de prendre conscience d'erreurs passées, qui nous a permis de réaliser le temps qui nous reste avant de rencontrer Allah et de recadrer notre vie. Wallahi, nous espérons la guider de la part d'Allah Azza wa Jal. Je suis le premier à espérer par le biais des lectures, par le biais de ce qu'on appelle les mutala'a, les études approfondies des textes du Coran. Et j'en parlais à mon ami Mohamed, qui est avec moi dans la voiture. Ce qui est exceptionnel avec le tafsir, c'est qu'on ne peut, on ne peut pas s'arrêter. Le tafsir, c'est pas qu'une personne va dire que voilà, moi j'ai étudié le tafsir de Abasa wa Tawalla, j'ai lu de Ibn Kathir, j'ai lu dans le tafsir de tel mufassir contemporain, j'ai lu de Al-Qurtubi, j'ai lu de Al-Baydawi, ainsi de suite. Khalas, je maîtrise Abasa wa Tawalla. Ça, c'est celui qui dit ça, c'est le plus grand ignorant. C'est celui qui est le plus grand jahil à propos de la parole d'Allah Azza wa Jal. Parce que l'homme intelligent, celui qui vraiment a compris le poids des versets du Coran, Wallahi l'Azim, on pourrait s'arrêter sur Al-Fatiha toute notre vie. On pourrait commenter Al-Fatiha sans s'arrêter. Parce que comme on l'avait dit la semaine dernière, Al-Fatiha, c'est le résumé des petits souars, les petits chapitres du Coran, les derniers chapitres. Et c'est le résumé de l'intégralité du Coran et c'est le condensé du Taurat, du Zabur, du Injil. Franchement, la parole d'Allah Azza wa Jal n'a pas son équivalent. Et on a besoin d'apprendre. Bien malheureux, celui qui se dit que je maîtrise la lecture, je mémorise, je suis capable de lire avec tajwid, une prononciation correcte, et il se suffit de ça. Bien malheureux, ce musulman qui ne sait pas profiter de la parole d'Allah. Nous sommes la Ummah élue par Allah. Nous sommes la seule communauté qui dispose de la parole d'Allah comme elle a été révélée. Quand on lit « وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَى » L'ange Jibril alayhi salam avait révélé au prophète alayhi salatu wassalam « وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَى » Et le prophète alayhi salatu wassalam avait expliqué aux sahaba Abu Bakr, à Umar, à Uthman, à Ali, aux sahaba « وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَى » Et ils l'ont transmis à leurs enfants, la deuxième génération de sahaba. Ils l'ont transmis aux tabi'in, au fil des siècles, plus de 14-15 siècles, jusqu'à ce que nous, ce soir, nous expliquons « وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَى وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَى » C'est la seule Ummah qui dispose de son livre dans son intégralité, authenticité. Les autres Ummah, que ce soit le Taurat, la Torah, ou le Injil, nous savons tous qu'est-ce qui s'est passé au cours des transmissions. Nous savons tous les falsifications qu'il y a eu dans la transmission des autres livres révélés au prophète alayhi salatu wassalam. Et nous avons la garantie que ce que nous allons lire, écouter, transmettre, C'est exactement les paroles qu'Allah Azza wa Jal a révélées au prophète alayhi salatu wa salam. Juste avant de commencer, je suis en train de lire quelques paroles magnifiques de Cheikh al-Islam à propos de Qasasul Qur'an. Et Allah est grand. Allah est grand parce que je cherchais un maqta' depuis quelques temps. Je cherchais un auteur qui aurait écrit, qui aurait résumé quelques fawaïd, quelques points intéressants concernant les histoires de le Coran. Sachant qu'on doit bientôt aborder l'histoire de Moussa alayhi salam, moi je souhaitais trouver quelque chose, une citation, ou alors des points qui résument l'impact et l'importance sur le plan spirituel mais également psychologique des histoires du Coran. Et subhanallah, on trouve un écrit qui fait, mashallah, une quarantaine de lignes, tellement riche, ajib. Et parmi les derniers points, il dit qu'il y a des fois où dans le Coran, vous avez une histoire qui est répétée à maintes et maintes reprises. L'histoire d'un même prophète, comme l'histoire, par exemple, de Moussa alayhi salam, qu'on retrouve dans plusieurs chapitres du Coran, il dit une des spécificités du Coran, une des preuves encore que c'est un mu'jiza, que c'est le miracle d'Allah, c'est qu'à chaque fois que l'histoire est racontée, même s'il est raconté 15 ou 20 fois dans différents endroits, il n'y aura jamais de contradiction. Les versions vont se rejoindre et il n'y aura pas de contradiction comme ce fut le cas pour les autres livres qui ont été révélés avant nous où, à force de falsification, les histoires n'étaient plus authentiques. Donc, c'est juste pour prendre conscience de l'importance du majlis et de la chance qu'Allah nous accorde de pouvoir étudier un petit peu quelques versets du Coran. Et l'objectif, c'est de comprendre, mettre en pratique, Inch'Allah, et que lorsque nous allons faire nos prières, nos salats, ben nous pensons à ce que nous avons appris, afin que lorsqu'on lit, on trouve la dévotion, on trouve la concentration, et on comprend, on essaie de comprendre la parole d'Allah Azza wa Jal. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait introduit « وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَى » et « وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَى » On avait dit « par ceux qui arrachent violemment et par ceux qui recueillent avec douceur ». De quoi on parle? Arracher quoi violemment? Et recueillir quoi? Recueillir quoi avec douceur? Rouh! Et qui c'est qui recueille les âmes violemment? C'est l'ange de la mort avec le cortège qui l'accompagne. C'est l'âme des kuffars, l'âme de ceux qui n'ont pas cru en Allah Azza wa Jal. Et وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَى, et par ceux qui recueillent avec douceur. C'est le même ange de la mort qui vient prendre l'âme du mu'min, qui viendra un jour prendre l'âme d'Ibrahim, de Abdullah, de Muhammad, de Bilal, de Anwar, et ainsi de suite. Mais Inch'Allah Azza wa Jal avec douceur. Et à la même seconde, à la même fraction, à la même millième de seconde, l'ange de la mort peut apparaître de façon effrayante auprès d'un groupe de kafara, de gens qui n'ont pas cru en Allah, et en même temps, de façon magnifique, comme on l'avait expliqué la dernière fois, le mu'min qui voit l'ange de la mort sous son plus bel aspect, c'est déjà une récompense. C'est comme si qu'il a déjà eu sa récompense de ce dunya, parce que voir l'ange de la mort sous son aspect le plus beau, c'est quelque chose d'énorme et de magnifique. Il dit que le mourant, en ce moment-là, en ce sens, il est ébahi, épaté par la vision de l'ange de la mort qui est magnifique. Donc, ça, c'est la qudrat d'Allah Azza wa Jal. Que cet ange peut paraître en une fraction de seconde avec telle personne, et en même temps, telle personne, dans telle région du monde, dans tel pays, au même moment, il peut y avoir, nasallallahu alayhi wa sallam, un accident de bus, de train, de TGV, d'avion ou quoi que ce soit, et dans le même appareil, tu as des croyants, on a des croyants et on a des gens qui n'ont pas la foi, mais ils voient l'ange de la mort de différentes façons. On va dire, mais comment est-ce possible? Dans le fonctionnement humain, je ne peux pas être plusieurs endroits en même temps et je ne peux pas apparaître de différentes façons à différentes personnes. Mais là, nous passons un cap. Là, nous parlons du monde de l'invisible. Et les règles qui régissent le monde de l'invisible, ce sont des règles qui sont propres au monde du al-ghaib. Et ça fait partie de nos qualités, alladina yu'minuna bil-ghaib. Uniquement en méditant sur le travail, sur les spécificités de Malek al-Maut, de l'ange de la mort, on réalise la puissance d'Allah Azza wa Jal et on réalise également le décalage, et c'est ça il faut bien réaliser, le décalage qui existe entre notre monde à nous, notre monde réel, qui est enfin un monde virtuel, que nous croyons être réel, et le monde de l'invisible qui lui c'est le vrai monde, parce que c'est le seul monde qui restera pour l'éternité. Alors que ce dunya, nous avons des règles, des lois physiques, chimiques et ainsi de suite, relations spatio-temporel, tout ça, on peut l'acquérir par l'expérience. On sait que ça fonctionne comme ça, mais en fait, c'est ça le monde virtuel. Parce qu'il dure quelques temps. Et le jour de Qiyama, une personne qui a vécu, mashallah, nombre d'années dans ce dunya, on lui posera la question, قال, كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا combien de temps? يوم يومًا أو بعض يوم. On dit qu'on a vécu un jour de ce monde, ou alors quelques jours, pas 70 ans, c'est pas possible. Monde virtuel. Nous on a l'impression que ça c'est tout pour nous ça. Je dois travailler, je dois construire, je dois faire fructifier, je dois léguer à mes enfants, je projette de faire telle chose. C'est comme si que, et hafa, tout ça, c'est vraiment notre vie. On doit le construire pièce par pièce. Mais quand le moment de la mort arrive, on voit notre vie défiler, on se rend compte que on a passé très peu de temps de ce dunya. Mais on a devant nous le résultat de nos mains. Qu'est-ce qu'on a de nos mains? Qu'est-ce que tu amènes auprès du tribunal d'Allah Azza wa Jal? Iman et amal saliha? Ou alors, ça c'est A. B, iman, amal saliha wa amal sayyi'a? Khalatu amalan saliha wa akhara sayyi'a? Des gens qui ont fait de bonnes œuvres et également des péchés. Ça c'est la réponse B. Iman wa amal sayyi'a? Ça c'est la réponse C. C'est-à-dire la foi et les bonnes actions, le A. La foi, bonne action plus péché. Ça c'était le B. La foi et les péchés, ça c'est le C. Ou alors, kufr, wa shirk, wa ilhad, rien du tout. Avec amal saliha, ce qui ne servira strictement à rien. Ou alors, kufr, wa ilhad, wa shirk, et amal sayyi'a, dans les deux cas, le D et le E, c'est pareil. Tant qu'il n'y a pas, la ilaha illallah, à nous de choisir. C'est un choix que je fais tous les matins quand je me réveille. C'est un choix que je fais tous les soirs avant de dormir. Comment je veux vivre cette nuit? Comme un mu'min, comme un fasiq, pécheur endurci, comme un kafir billah, qui va se réveiller demain à 8h, parce qu'il est fonctionnaire, il est samedi, il ne travaille pas, il met son réveil à 8h30, et quand tu te prosternes devant Allah, quand tu viens à la salat, à la masjid, pour faire tes prières, ou alors tu te couches comme un mu'min, et tu te lèves comme Nabi alayhi salatu wassalam se lever dans la nuit, akhir thuluthul layl, dès le tiers de la nuit, pour lever les mains, invoquer Allah et pleurer ton Seigneur. Et quand je me réveille le matin, je fais un choix. Est-ce que je vais vivre cette journée avec l'option A, B, C, D ou E, avec la foi et bonnes actions, ou la foi et bonnes actions, mais s'il y a une alternative pour faire des péchés, je vais le faire. Et puis certainement je demanderai pardon à Allah Azza wa Jal. Ce qui fera de moi quand même un croyant. Mais quelle catégorie de croyant? Et en fonction de notre appartenance à la lettre A, B, C, D ou E, quand l'ange de la mort arrive, ben l'ange de la mort aussi va mettre, excusez-moi, soit son costume A, B, C, D ou E. Le mu'min, muttaqi, qui a la crainte d'Allah dans son cœur lorsqu'il quitte ce dunya, c'est pas comme le musulman qui faisait des bonnes actions mais également énormément de péchés. C'est pas la même chose, c'est pas le même niveau. Et encore moins celui qui faisait exclusivement des péchés. D'où le verset ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي نَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. On a les trois catégories de personnes. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Il y en a ceux qui font des péchés. Il y en a ceux qui مُقْتَصِدٌ, c'est-à-dire entre les deux. Ils font des bonnes œuvres, mais ils font des péchés également. Et ensuite, il y en a ceux qui, mashallah, ils sont les premiers à répondre présents aux bonnes actions. On a vu dans les commentaires des Riyadus Salihin à Saint-Clotilde que lorsque les gens vont traverser le Sirat, vous savez que les gens vont traverser à différentes vitesses, de différentes façons. La meilleure des façons, c'est celui qui traversera à la vitesse de l'éclair. Ensuite, comme Rih, comme un vent, ou alors à vol d'oiseau, et ainsi de suite. Il y en a qui vont ramper et même tomber, nasallahu alayhi wa sallam. En commenté, Ibn Uthaymin, rahimallah, il dit que c'est uniquement les Ahlul Iman qui vont traverser le Sirat, ceux qui ont la foi. Parce que les Kafara, ceux qui n'ont pas Iman en Allah, ils n'ont même pas cette opportunité de traverser le Sirat qui aboutit au Jannah. Parce qu'il n'y a pas de Amal, il n'y a aucun espoir qui les rende le Jannah. Ils seront déjà pris par les autres étapes de l'au-delà, les autres étapes, pardon, du Mahshar, seront déjà fatales pour ceux qui n'ont pas la ilaha illallah de leur cœur. C'est donc le mu'min qui emprunte le Sirat. Cette personne qui va traverser à la vitesse de l'éclair, ben c'est exactement cette personne qui, de ce dunya, à chaque fois qu'il avait la possibilité d'accomplir une bonne action, il le faisait. Là est à raddad. Il n'hésitait pas une seconde. Qu'Allah nous accorde cette qualité. Qu'à chaque ouverture, on fonce pour faire la bonne action. Et chaque fois que Shaitan ouvre une porte de péché, on soit le premier à le fermer. On le ferme sur nous-mêmes, on le ferme sur notre épouse, sur nos enfants, pour que personne ne soit tenté. Et quand il y a une ouverture de khayrat, on l'ouvre pour qu'on puisse le faire. Ikhwan fillah, qu'Allah m'accorde cette chance, cet honneur. Vous vous réveillez à 3h30 du matin, vous regardez le réveil, vous dites que normalement je me réveille à 4h30 pour venir à la salat al-fajr. 3h30, badri, il est encore tôt. Ya akhi, Allah t'a donné un tawfiq. Il t'ouvre une porte, une petite porte. Est-ce que ce serviteur, Allah connaît ce qu'on va décider, est-ce que le serviteur va prendre conscience que je suis de le dernier tiers de la nuit, maintenant, c'est jusqu'à 4h. Yani, il me reste 30 minutes. C'est l'occasion de faire mes ablutions et de faire de raka, demande pardon. Tauba, Allah, tauba, tauba. Tauba pour ses péchés accumulés le matin, le soir, pour ses années d'erreur. Tauba pour ma jeunesse que j'ai peut-être pas passé de l'obéissance d'Allah. Tauba pour ses paroles que j'ai prononcées. Tauba pour ses yeux qui ont péché, pour ses oreilles qui ont écouté ce qu'il fallait pas écouter. Qui nous dit quand est-ce que notre tauba est acceptée par Allah Azza wa Jal? C'est des ikhtibar, c'est des tests qu'Allah nous envoie. Nous devons être capables de répondre présent lorsqu'Allah nous donne la possibilité de faire une bonne action. Et lorsqu'on se voit tenté par un péché, qu'on se réveille, qu'on prenne conscience que c'est une épreuve de la part d'Allah. Est-ce que son serviteur va sombrer dans le fitna? Vous vous rappelez l'histoire des trois personnes, wa'ala thalathati alladhina khulifu, ces trois sahaba qui n'avaient pas participé à la bataille de Badr? Non, beaucoup plus loin. Tabou, barakallahu fik. Plus loin, je voulais dire, pas par rapport au temps, géographiquement, beaucoup plus loin de Al-Madina. Et parmi ces trois, j'ai plus le nom. Et les trois, il y a un entre les trois. Il dit qu'il a reçu la visite d'un émissaire venu d'une autre contrée, qui n'était pas des musulmans. Il dit que mon chef m'envoie te rencontrer. Il a entendu que ton chef à toi, ton prophète, te rejette. Sache que nous t'accueillons. Nous t'accueillons à bras ouverts. Rejoins-nous dans telle contrée et tu seras honoré parmi nous et non pas humilié comme tu l'es depuis une dizaine de jours auprès de tes amis, de tes anciens amis. Il a compris tout de suite que ça c'est un test de la part d'Allah Azza wa Jal. Fitna. Effectivement, s'il va là-bas, il va être honoré. Mais s'il va là-bas, il quitte Darut Tawhid. Il quitte la terre du Sidi Allah, il va aller vers des kuffars. À toute échelle raisonnable, on n'est pas tenté par le kuffre, bien sûr. Mais quand il y a des moments où on est tenté par des péchés, parce que nous restons des êtres humains, et nous vivons une époque où nous sommes entourés de péchés, attention, quand nous voyons que nous sommes tentés, ista'ith billah, demande protection contre Allah, demande protection auprès d'Allah, recherche protection, refuge auprès d'Allah, minash shaitan rajim, contre shaitan le maudit. Parce qu'il va essayer de t'entraîner dans le piège. Il va essayer de te tenter. Et s'il a pu te faire chuter une fois, il te fera chuter une deuxième fois plus tard. Et une troisième fois, jusqu'à ce qu'on devienne addict et adepte d'un péché particulier. Et donc quand on se sent tenté, on demande protection auprès d'Allah contre Shaitan, al-mal'un, le maudit. Qu'Allah nous garde sur le droit chemin, on s'éloigne là du sujet. On essaie de revenir donc au nazi'ati, gharqa, au nashitati, nashta. L'ange de la mort qui reprend l'âme des kuffars de façon rude, par ceux qui arrachent violemment et par ceux qui recueillent avec douceur. Pour revenir sur les derniers points qu'on avait cités la dernière fois, au nashitati, nashta, on a dit que, en résumé, vous êtes autour d'un mourant. Ça peut être votre père qui est en train de mourir. Ça peut être votre épouse qui est en train d'agoniser. Ça peut être votre enfant qui est en train de mourir. Mais quand c'est un enfant, alhamdulillah, il est ma'soum, il est innocent. Vous êtes auprès d'un homme ou d'une femme, quelqu'un qui vous est proche. Vous le voyez quitter ce dunya. Vous pleurez, vous êtes attristé parce que vous savez que vous n'allez plus le voir. Mais cette personne, si c'était quelqu'un qui était dans le droit chemin, le prophète عليه الصلاة والسلام explique ليس ذلك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر. Le mu'min, lorsque l'ange de la mort vient reprendre son âme, on lui annonce la bonne nouvelle. بشر بريضوان الله وكرامته On lui annonce qu'Allah est satisfait de lui. On lui annonce la bonne nouvelle de la générosité d'Allah Azza wa Jal. فَلَيْسَ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا أَحَبُّ مِمَّا أَمَامَ. Qu'il n'y a, à ce moment précis, il n'y a rien qu'il ne souhaite plus que ce qu'il commence à découvrir. فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهُ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَ. Et à ce moment, il ne veut qu'une chose, rencontrer Allah maintenant. Et dans des commentaires du hadith, il dit que à ce moment-là, si on propose au défunt de rester avec ses proches, de ne pas mourir, et qu'on lui accorde tous les bienfaits, tous les biens matériels de ce monde, jamais il ne serait prêt à prendre cet argent et à retourner auprès de ses proches. Pourquoi ? Parce que le mu'min, lorsqu'il a vu, mais avec le regard du raïb, du monde, de l'invisible, de l'au-delà, ce qu'Allah lui a réservé comme récompense, pour lui, c'est plus qu'un bonheur, c'est la délivrance. Quand on cite le hadith, « Ad-dunya sijnun lil mu'min », ce bas monde, c'est une prison pour le croyant. Mais quand on ouvre les portes de cette prison, c'est la liberté. Mais les portes ne s'ouvriront jamais de ce dunya. Quand est-ce que les portes de ce sijn vont s'ouvrir ? Ben c'est quand les portes du dunya s'ouvrent et qu'on passe au darul akhirah, de le monde de l'au-delà. Le mu'min est délivré. Toi, tu pleures la mort de grand-père ou de ton père ou de ta mère, mais lui, s'il était dans le droit chemin, c'est le plus grand bonheur. Même si on ne le voit pas, on n'entend pas, on ne perçoit pas son bonheur, mais il est content parce qu'il rencontre Allah. Il va voir les récompenses de Khamsa Salawat, 5 prières qu'il accomplit depuis l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 75 ans. Il va voir le Somme 30 jeûne de Ramadan depuis l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 75 ans. Il va voir les récompenses de ses 12 Hajj, de ses 30 Umrah, de ses lectures. Il arrête d'alik, de ses A'mal Saliha. Ça, c'est la délivrance du mu'min. Mais pour être dans le cas de cette personne, mes chers frères, il faut vivre une vie de droiture. Et ça, c'est important. On a un travail à faire sur nous-mêmes. Chaque individu présent dans cette assemblée est éprouvé par Allah de façon différente, en fonction de son degré de foi. Et chaque personne présente dans cette assemblée a une faiblesse. Et shaitan, ou ne serait-ce le qarin, le petit shaitan, on pourrait dire, qui est avec chaque être humain, il sait, il connaît la faiblesse de chaque personne. Lui, il est tenté par les femmes. Lui, il est tenté par l'argent facile, sans rechercher la source, c'est halal ou c'est pas halal. Lui, il est tenté par la musique. Lui, il est tenté par le regard de n'importe quoi. Lui, il est tenté par les conversations. Il aime raconter les panchals, raconter les histoires, faire le riba, le bohtan, le namima, colporter, médisance, il aime. Chaque personne, et puis d'autres péchés, je ne veux pas citer tous les péchés, le qarin ou alors le shaitan, il connaît exactement la faiblesse de chacun. Et il va travailler le dossier de cette personne pour le faire plonger. Donc, chacun a un travail à faire sur soi-même. On parle parfois, on explique, on donne des éléments de réponse par rapport à nos questionnements sur la spiritualité, mais en finalité, c'est entre nous et Allah. Et c'est un combat entre nous et notre nafs. C'est un combat entre nous et Shaitan. Et c'est un combat de tous les instants. J'allais dire tous les jours, mais c'est à chaque instant, on se ressaisit. On ne se laisse pas tenter par le diable et on essaie de rester dans le droit chemin en connaissant ce qui est bon, ce qui est mauvais. C'est ça la vie du mu'min. C'est ça le taqwa. Taj'ala baynaka wa bayna Allah hijab. Mettre une protection, une séparation entre nous et la colère d'Allah. Que jamais Allah ne te voit dans une situation où tu es en train de le désobéir. Ça, c'est le challenge, si je pourrais dire, du musulman. Ne jamais être dans une situation où Allah serait mécontent de moi. Si on intègre cette règle, Allah, il n'y a plus besoin de discours. Il n'y a pas besoin de parler énormément. J'ai compris que dans chaque instant de ma vie, je dois analyser qu'est-ce que j'accomplis, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais, pour que jamais Allah ne soit mécontent de moi à cet instant. On prend le relais donc. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sabihati sabha. Et par ceux qui voguent librement. Le terme voguer, ça, c'est pas bien traduit. Dire que ce verset parle des anges qui circulent. Je préfère le terme circuler. Que voguer, c'est comme un bateau ou autre chose. Par ces anges qui circulent. Donc, on a deux descriptifs des anges, le verset 1 et 2. Ceux qui arrachent l'âme violemment des koufars, donc ceux qui prennent l'âme du mu'min avec douceur. Et on a un autre descriptif des malaïka, c'est-à-dire ils voguent, d'accord, ils circulent à travers le dunya. Ça peut être ce dunya, ça peut être d'autres planètes, ça peut être un système solaire, Allah seul le sait. Ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas l'espace, vous savez. On maîtrise notre espace à nous. Si je vous dis, est-ce que tu peux aller à 100 mètres en haut, si, sans montagne, sans échelle? Non, on est limité, nous sommes des terriens, nous respectons, nous subissons la loi de la gravité. Notre relation avec l'espace est très limitée. Maintenant qu'on voit la planète Terre, on voit les autres planètes. Vous voyez, vous avez déjà vu par rapport à Internet, on compare la planète Terre avec d'autres planètes, on se rend compte qu'on n'est même pas un grain de sable dans l'univers. Mais les malaïkas, ils peuvent parcourir toute la création d'Allah Azza wa Jal à une vitesse qu'on n'imagine pas. Et donc, facile, il donne un bel exemple, c'est l'exemple qu'il fallait citer. En termes de force, de vitesse, de capacité à se mouvoir et à se déplacer, il y a d'abord les malaïkas, ensuite il y a les djinns, ensuite il y a les êtres humains. Et il cite l'histoire de Suleyman alayhi salam. Lorsque le roi Salomon, Suleyman alayhi salam, voulait qu'on lui ramène le trône de Bilqis. Le trône de, c'est ce que vous allez dire, Bilqis. Il a demandé, ya ayyuhal mala, ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla ya'tuni muslimin. Il devait venir le rencontrer. Il devait venir le rencontrer, mais il voulait impressionner cette personne, lui faire réaliser que la puissance, elle vient d'Allah. C'est pas ce que tu possèdes, pas tes richesses. Dis donc, quelqu'un va me chercher son trône. Un trône, c'est pas un mimbar, c'est pas une chair, c'est quelque chose d'énorme. Qui me ramène ça? Et c'est une distance énorme entre la terre de Cham et le Yémen. Ça en fait des kilomètres. Et donc, quand l'Ifrit ou min al-jin, un des djinns qui était dans son assemblée, dit Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. J'ai pas la traduction littérale, mais dit que je te le ramène avant même que tu te lèves. Imaginez, vous êtes assis, vous dites à quelqu'un, bon, ramène-moi telle chose, il faut qu'avant que je me lève, ce soit là. Attends quand même, ok? Je suis pas flash. Et effectivement, il avait ce pouvoir de la part d'Allah Azza wa Jal de se déplacer à une telle vitesse. C'est la vitesse des djinns qu'Allah leur a accordé. Khalq min khalqillah, une des créatures d'Allah, ils ont cette capacité. Dit qu'avant que tu te lèves, khalas, je te l'ai apporté. Dalil ala sur'a wal quwwa, preuve de la vitesse et de la force. Porter un trône, on n'en porte pas tous les matins, d'accord? Et à cette vitesse, c'est-à-dire en 2 secondes, 3 secondes. Ajib. قال الذي عنده علم من الكتاب un savant en ce sens انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك avant que tu ne clines l'œil. Ajib ça. On cligne l'œil combien de fois tous les secondes? Enfin, je sais pas, tous les minutes, beaucoup de fois, d'accord? Et dans certains tafsirs il dit que c'est comme si tu regardes à l'horizon et puis tu fermes les yeux et puis tu clines les yeux. Quand tu rouvres les yeux, khalas, le trône est là. Et en commentaire il dit que c'était un malaïka, innahu hamalathu al-malaïka hatta ja'at bihi ila Sulayman min al-Yaman, ou plutôt min al-Yaman ila al-Sham. C'est un ange qui a rapporté le trône de Bilqis du Yémen pour amener à Sulayman alayhi salam de la terre du al-Sham le temps qu'il fallait pour cligner les yeux. Un trône gigantesque, d'accord, on ne parle même pas d'une seconde. Et donc par rapport à cette histoire, le Mufassir dit, voyez donc la force qu'Allah, la puissance qu'Allah a accordée aux djinns, mais regardez la puissance qu'Allah Azza wa Jal a accordée aux malaïkas. Ça c'est la force des anges. Et donc ça c'est une qualité des anges, d'accord. Ils peuvent se déplacer à une vitesse qu'on n'imagine pas, mais là on parle du Yémen au Cham, mais ça peut être de la terre jusqu'au premier ciel, jusqu'au second ciel. Vous savez, quand on parle de premier ciel, vous savez, c'est une notion qui n'est pas connue par les scientifiques, mais quand on parle de système solaire, des soleils, des différents soleils, des différents systèmes solaires et tout, des trucs qu'on connaît pas, tout ça c'est étendu, mais ça n'arrive pas au premier ciel. Le premier ciel est inaccessible. Le premier ciel est inaccessible à l'homme. Le prophète alayhi salatu wa salam a pu avoir accès par une créature de l'au-delà, le buraq. Et il a dû avoir des qualités en plus du transport. Le buraq, l'animal qu'il a amené, le prophète alayhi salatu wa salam a subi une opération de la poitrine. Parce que c'est un voyage que l'homme, l'être humain, ne peut supporter. Parce qu'il y a des choses qu'on voit, qu'un homme ne peut voir, entendre, que l'homme ne peut pas. Il n'est pas conçu pour entendre. Ça, c'est un commentaire magnifique d'un grand mu'arrikh qui explique que c'était une des hikmahs de l'opération de la poitrine, juste avant le voyage nocturne. Donc, c'est là une des qualités des anges. Et si Allah fait qasam par les anges, c'est parce que ce sont une des créatures les plus aimées par Allah Azza wa Jal. On avance, on continue. فَالسَّابِقَاتِ سَبْقَا. Puis, s'élance à toute vitesse. On parle de vitesse, mais on parle également, l'autre commentaire c'est أي تسبق إلى أمر الله عز وجل وأقوم بأمر الله من بني آدم. C'est une qualité des anges qu'ils s'empressent à obéir, à appliquer, à mettre en application les ordres d'Allah عز وجل. Les différents versets d'où لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ou d'autres versets, ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. Ils ne s'arrêtent pas donc d'obéir à Allah Azza wa Jal. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. Ils font les louanges à Allah nuit et jour. Ça, c'est une des qualités des malaïka, l'adoration, le ibada permanent d'Allah Azza wa Jal sans jamais s'arrêter. Vous rappelez de ce hadith qu'on avait cité il y a quelque temps, un ange qu'Allah a créé depuis le début de la création, depuis le début de Al-Khalq, début de la création, et depuis qu'Allah a créé cet ange, il est en sijda jusqu'au Qiyam. Et lorsque il y aura nafkhu fi sur, lorsque Israfil soufflera dans la corne, cet ange lèvera sa tête et va dire Subhanaka ma abidnaka haqqa ibadatik. Toutes les louanges te reviennent, oh Allah, je ne t'ai pas adoré comme tu le méritais. Ça, c'est les malaïkas qui passent leur vie dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, une des qualités des anges. Fal mudabbirati amra, et on va s'arrêter sur ce verset. Je pense qu'on a couvert les 40 minutes. Non, on est à 30, alhamdulillah, baraka de le temps. Fal mudabbirati amra, et règle les affaires. Fal mudabbirati amra, même le mot y règle des affaires, c'est un peu lourd comme traduction. C'est-à-dire ces anges qui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Comment on pourrait traduire? Ces anges qui accomplissent leur mission en fonction des missions qu'Allah leur a données dans l'organisation de la création, du khalq, de la création d'Allah. C'est des anges qui exécutent parfaitement les missions qu'Allah leur a accordées. Tadbir al-umur. On connaît que l'ange, on va aller vite là, que l'ange Jibril alayhi salam, c'est l'ange responsable de al-wahi, des révélations. On connaît que l'ange Israfil, avec un fa, c'est l'ange qui est responsable de an-nafkhu fi sur, de souffler dans la corne. Dans un hadith, il est dit que depuis qu'Allah lui a donné cet ordre, il a la corne prêt à souffler, les yeux rivés vers le trône d'Allah Azza wa Jal, et ne cligne pas des yeux, makhafatan an yu'mar, de crainte qu'en une fraction de seconde, Allah lui ordonne de souffler dans la corne et qu'il a eu un retard d'une fraction de seconde. Shiddatut ta'a, comment est-ce que ces anges obéissent à Allah Azza wa Jal. On connaît également que l'ange Mikaïl alayhi salam est chargé d'apporter le rizq, la subsistance à toute créature d'Allah. Ça fait partie des points qu'on explique aux élèves à madrasa, ils sont impressionnés. C'est le même ange qui apporte la nourriture, la subsistance à chaque être humain, mais également aux animaux, les mammifères, les gros animaux, mais l'infiniment petit aussi. Le monde microbien, les bactéries, les virus, chaque créature d'Allah a une subsistance. Et la subsistance est apportée par l'ange Mikaïl alayhi salam, qui en même temps est chargé de la pluie, est chargé des fruits, des légumes qui poussent. Ajib, le qudra qu'Allah accorde à Mikaïl alayhi salam, le pouvoir qu'Allah accorde à Israfil, un souffle qui anéantit la création. Un souffle qui, bidillah, redonne vie à la création. Connaît l'ange de la mort, on en a parlé tout à l'heure, qui est chargé de reprendre l'âme de toute personne, et le qudra qu'Allah lui a accordé, c'est ajib, pouvoir prendre l'âme de milliers de personnes en même temps dans différents endroits, c'est le qudra, la force, la puissance qu'Allah lui a accordé. On connaît également l'ange qui est responsable, qui est gardien de l'enfer, qui s'appelle Malik, qu'Allah nous protège même de le voir, qui est responsable du Jahannam. On connaît un autre ange, et qu'Allah nous donne la possibilité de le rencontrer, qui s'appelle Ridwan. C'est qui Ridwan? Ridwan, c'est l'ange qui est chargé, qui est responsable du Jannah. Et si je ne me trompe pas, c'est lui qui va accueillir le prophète alayhi salatu wassalam, parce que lorsque le prophète sallam va cogner à la porte du paradis, l'ange va demander qui est-ce? Il va dire Muhammad. Il a dit Bika umirtu. C'est uniquement pour toi que j'ai eu la consigne d'ouvrir cette porte. Le premier à cogner et taper la porte du Jannah, Allah Akbar, comme on dit le Jannah, on doit avoir des frissons. Moi, je dois lâcher ma bouteille normalement. Quand on dit, c'est une bouteille d'eau, hein, pour ceux qui m'écoutent. Le Jannah, quand on parle du Jannah, on doit avoir des frissons. C'est le but de ma vie, oui ou non? C'est pour ça que je suis ici en train de vous expliquer ça. C'est pour ça que vous êtes là en train de m'écouter. C'est pour ça que j'ai fait la salat tout à l'heure. C'est pour ça que je vais refaire la salat demain après Fajr, pour Fajr. C'est pour ça que ce soir je n'ai pas fait de bêtises. Je ne vais pas aller en boîte de nuit, je vais pas boire de l'alcool, je ne vais pas faire telle chose. C'est pour ça que je contrôle mon regard, que je n'écoute pas ce qu'il ne faut pas écouter. Parce que je veux accéder au Jannah, oui ou non? Chaque être humain veut entrer au paradis. Parce que là-haut, il y a paradis ou enfer. Il n'y a pas de waiting list, il n'y a pas de salle d'attente, il n'y a pas de salle de transition, non. C'est soit le Jannah, soit le Jahannam, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, mon but à moi, c'est d'avoir le paradis. Mais il y a beaucoup de gens qui font des actions des gens de l'enfer. Quand on voit nos sœurs en islam, comment elles s'habillent, je ne vous dis pas de regarder, mais quand on voit les musulmanes à notre époque, on est en 2014, comment elles s'habillent, c'est vrai qu'il fait chaud en ce moment, c'est l'été, mais Allah Musta'an, quand je vois des jeunes filles qui sortent du collège, moi je dépose mes enfants au collège, mon fils, je vois des enfants de bonnes familles, de familles religieuses, familles dans lesquelles il y a des huffaz al-Qur'an, il y a des ulama, il y a des savants. On laisse les filles s'habiller comme n'importe quelle autre personne. Elle est où la différence de foi? Il est où cet espoir d'avoir le Jannah? Quand on voit même parfois des gens qui, je ne sais pas moi, vous voyez une personne qui travaille pour la religion. Je ne parle pas d'un savant, hein, mais quelqu'un qui travaille pour la religion, il est investi, il suit tel projet, et son épouse, elle ne se couvre même pas les cheveux. Ma'akoul, ghair ma'akoul. C'est pas logique. Excusez-moi, c'est pas cohérent. On ne tient pas un discours rigoriste, on dit il faut mettre le niqab et tout. Non, on ne parle pas de ça. Mais il n'y a pas de divergence sur le fait que les cheveux, c'est aura. Les cheveux, ça fait partie des choses que la femme doit couvrir. Et quand on parle ça à cette personne, soit il vous dit que ça, c'est mon problème. C'est le choix que j'ai fait, c'est entre moi et Allah. Mais quand Allah t'appelle près de son tribunal le jour de Qiyam, on répond au quoi, Allah? Tu vas dire que, oh Allah, c'est un choix, c'était entre moi et toi. Tu vois pas que ça n'a pas de sens. Allah te convoque parce que tu n'as pas respecté ses ordres. Ou pour te rétribuer parce que tu as respecté ses ordres. Là, on va dire quoi? Vous avez toutes ces excuses à l'emporte-pièce, excusez-moi l'expression, où on dit comme ça c'est waswasa, c'est wahi, excusez-moi, c'est presque une révélation, et très tard. C'est un waswasa du diable de Shaitan. Qui te dit que plus tard, on verra. Ou qui te dit que c'est entre toi et Allah. Ton cœur dedans, il est propre, ne t'inquiète pas. Ou alors que de toute façon, tu fais tes prières. D'accord, tu ne te coupes pas les cheveux, mais tes prières, tu les fais. Il y en a qui ne font même pas les prières. Ou alors que, mon Dieu, il est clément, miséricordieux. Allah, il pardonne, ne t'inquiète pas. Ou alors, Allah ne va pas me punir pour ça. Il y a des choses plus graves. Je respecte mon mari, je ne fais pas l'adultère, je ne consomme pas de l'intérêt, je ne mange pas du porc, je ne veux pas de l'alcool, je ne vais pas en boîte de nuit. Allez, c'est quoi? Mes cheveux sont dorés alors. Je ne fais pas ça pour attirer les hommes. Je suis une femme chaste, je ne fais pas l'adultère. Ce n'est pas pour attirer, mais c'est comme ça. Tout ça, waswasa de Shaitan. Et Shaitan est tellement heureux parce qu'il te garde de ce marasme. Il te garde dans cet état d'esprit, il te persuade que tu es dans le droit chemin, alors que tu n'es pas dans le droit chemin. Ya urti fillah, que nos soeurs se ressaisissent, qu'elles retournent vers le dîn d'Allah Azza wa Jal, qu'elles pensent à ce moment où l'ange de la mort va reprendre l'âme. Quelle réponse on donne dans la tombe? Quelle réponse on donne le jour de Qiyam? Ce que nos soeurs sont en train de dire, ça n'a ni queue ni tête, ça n'a strictement aucun sens. Qu'Allah leur accorde la guidée à Hidayah. Donc, qu'est-ce qu'on disait là? Donc, qu'Allah nous accorde la possibilité de voir Ridwan. Oui, quand on parle du Jannah, ça donne des frissons. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que je vis, pour obtenir le Jannah. On continue. Et quand on parle de Anil Yamin ou Anil Shimal et Qa'id, ces anges qui sont assis à droite et à gauche, qui inscrivent les a'mal, les actions bonnes comme mauvaises. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ils sont là, ils inscrivent les actions bonnes comme mauvaises. Wallahi, ça j'explique à nos élèves à la madrasa. Prenez n'importe quelle branche de la foi, ça vous ramène vers Iman Billah. Prenez Iman Bil Malaika, C'est vraiment le iman billah. Prenez iman bil yawm il akhir ila ghayr dhalik. Si quelqu'un développe iman bil malaika, sa foi en Allah va devenir extraordinaire. Parce qu'il aura, il va développer une telle taqwa, le seul fait de prendre conscience que j'ai des anges qui inscrivent mes actions, ça te permet de rester dans le droit chemin. Donc, tous ces anges-là, ils exécutent les ordres d'Allah Azza wa Jal. Question que je vous pose, si on a le temps. Est-ce que Allah a besoin de ses anges? Abadan. Combien d'anges portent le trône d'Allah Azza wa Jal? 8. Thamaniya. 8, barakallahu fik. Allah a besoin de ses anges? La hawla la quwwata illa billah. Est-ce qu'Allah a besoin de l'ange de la mort? Abadan. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal a besoin de Mikaël, de Israfil, de Ridwan, de Malik? Du tout. Allah il connaît, Allah est capable de tout, subhanallah, avec ou sans intermédiaire. Lorsque Moussa alayhi salam reçoit l'ordre de jeter son bâton, hein, qu'il reprend son bâton, le bâton se transforme en un serpent qui est gigantesque, qui avait deux sifas, deux qualités. Les qualités des serpents les plus grands, comment on appelle les plus grands serpents? Boa ou Anaconda ou je ne sais pas quoi. Et en même temps, le sifas d'un autre serpent, le terme est en arabe, je ne l'ai plus en tête, un petit serpent qui est extrêmement rapide, qui bouge à une vitesse, on ne peut pas l'attraper. Donc imagine un serpent de cette taille qui bouge à une telle vitesse. Et Allah Azza wa Jal demande à Moussa maintenant de le reprendre par sa tête. Et Moussa alayhi salam, il a peur, il dit que n'aie pas peur. Il l'attrape par la tête et je lisais encore le tafsir ibn Kathir, c'est effrayant. Il dit qu'il sentait le souffle du serpent qui sortait de ses narines et ses doigts touchaient les niables, les crocs. Je ne sais pas pour un serpent, comme on dit, les dents du serpent, il dit à ce moment, il redevient un bâton. Il y avait un ange qui est venu là, Qudrat d'Allah, avec ou sans intermédiaire. Donc, ces anges-là, ils exécutent, ils ne font qu'appliquer le tartib. Allah a organisé ce dunya avec une sunnah, ce qu'on appelle sunnatullah. Comment est-ce que ce monde est organisé? Mais Allah n'a pas besoin de ces créatures qui assurent cette organisation, parce qu'Allah, il est indépendant. Et d'ailleurs, quand il le souffle dans la trombe, il n'y a plus personne. L'imanil mulkulium lillah al-wahid al-qahar. Tout redeviendra comme avant quand il n'y avait que Allah Azza wa Jal. On va s'arrêter à la pour aujourd'hui, Inch'Allah. On a vu quelques sifat encore des malaïka. Parce que le point qui vient après, le verset 6, là on va parler de notre thématique, Yawm atarjufu ar-rajifa. On va parler de justement lorsque les deux fois l'ange soufflera de la corne et ce sera le qiyama et la résurrection et que les gens seront divisés en deux catégories et avec commentaire uniquement des kuffars. Quand là on a vu que les kuffars, comment leur âme est repris, mais là on aura un détail quand ils sont ressuscités, leur regard. Ajib, hein? Les versets qui décrivent les yeux, comment est-ce qu'ils vont regarder ébahis, effarés, le hors de mahshar et comment est-ce que cette étape va se dérouler et puis il y aura l'histoire de Moussa alayhi salam. On va compléter Inch'Allah la semaine prochaine, on va faire encore un cours de tafsir, ce sera le 19 décembre, la veille du 20 décembre férié et après ce sera la trêve Inch'Allah pendant les vacances et puis Inch'Allah qu'Allah donne longue vie pour pouvoir reprendre après les vacances. Wa ma tawfiqi illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakum khair. Allah récompense les responsables de la masjid qui nous attendent et qui ferment les portes, malgré que leur sortie Isha est très tard, il est 21h50, ils ont leur famille, ils ont leurs enfants, que pour chaque minute qu'on passe, qu'Allah augmente leur daraja et leur ouvre les portes de ce dunya et du akhir. Allahumma amin.